Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à deux épreuves sportives, le breaking et le skateboard, lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Médaillé d'argent en breaking aux Jeux de Paris 2024, battu en finale par le Canadien Kim, Danis Civil, alias B-Boy Danny Dand, est devenu le visage du breaking dans l'Hexagone. Sa personnalité solaire et sa capacité à faire lever les foules lui ont permis de tracer son sillon vers l'argent olympique. Partir à la rencontre de Danis Civil, alias Danny Dand, c'est d'abord prendre son ticket pour une aventure capillaire. À 36 ans, le danseur s'est déjà essayé à une large palette de couleurs en allant chez le coiffeur, passant facilement du jaune au bleu qu'il arbore à l'occasion de ses Jeux de Paris. Son entraîneur, Omar Emichi, ajoute de la nuance au tableau. Il dit « C'est aussi un gros travailleur. Danny a beaucoup de charisme et propose des mouvements très fins. Sa force, c'est aussi d'avoir poussé sa musicalité au plus haut. Il s'adapte très bien au DJ, joue avec la musique. C'est quelqu'un d'imprévisible. Le fruit de plus de 20 ans de breaking. Sa discipline, Danny Dand la découvre alors qu'il vit encore en Guyane. Il n'a pas tout à fait 15 ans quand il s'essaie à ses premiers pas de danse dans la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, au nord-ouest du territoire ultramarin, tout près de la frontière avec le Suriname. Un passage facilité par son cousin déjà converti. Peu à peu, le rêve du Guyanais prend forme. Il s'esquisse encore un peu plus nettement lorsqu'il intègre le Vagabond Cruise en 2015. Véritable tournant, Danny Dand s'impose alors comme l'un des principaux b-boys de la planète. Médaille d'or au championnat d'Europe en 2022, cinquième au championnat du monde la même année, avant une médaille d'or au Breaking for Gold Hall Series au Brésil en 2023. Un CV impressionnant auquel il faut ajouter trois couronnes de champion de France. Avec l'olympisme, le breaking s'est inventé un destin de sport, mais reste profondément un spectacle. Il faut bien des notes, comme en gymnastique. Chacun des 9 juges, tous d'anciens danseurs, désigne un vainqueur et un perdant pour chaque round. Le cumul de leurs 9 votes donne le résultat. Celui-ci, toutefois, ne dit pas grand-chose de ce qui se passe sur la scène et autour. D'ailleurs, les organisateurs le savent, eux qui ont placé au cœur du breaking 2 chargés d'animer l'aspect artistique et de tenter de rendre accessible ce sport si difficilement compréhensible. Dans la filiation du hip-hop, le breaking propose une danse originale où les acrobaties le disputent à la créativité, où les vrilles succèdent aux mouvements de sol, aux roues, aux saltos, aux glissades, aux tours sur la main, sur la tête et plus encore. Un art de l'improvisation aussi, qu'il faut s'adapter à la musique des 2 DJs qui se relaient aux abords de la piste de danse dans un programme éclectique. Une improvisation relative toutefois dans la réalité, tant les athlètes ont répété leur gamme et délivrent leur répertoire de gestuels, de pas composés, de transitions, tout au long des rounds et des battles qui opposent entre elles les athlètes. Il faut éviter de se répéter. C'est bien d'avoir beaucoup de vocabulaire. C'est ça qu'on travaille à l'entraînement. Avoir des mouvements variés, toujours proposer des choses nouvelles et les juges le remarquent en général. Le breaking demeure profondément une pratique de défi, héritée du comté new-yorkais du Bronx, là où la pratique est née dans les années 1970, quand il s'agissait de se confronter par la danse, le regard, la gestuelle. Des athlètes viennent parfois très près du visage de l'adversaire pour se toiser, se mesurer. Les mêmes font appel à la foule pour réclamer du soutien ou tenter de valider leur domination par le grondement de plaisir des spectateurs ou des supporters. Le breaking, de ce point de vue, c'est un peu comme si le haka des rugbymen néo-zélandais avait muté et était devenu une discipline olympique, créative et artistique, où la confrontation devient un dialogue et un art en même temps. pour la dramaturgie du sport, c'est plus difficile. D'abord parce que les règles sont complexes, avec des modifications pour chaque tour. Ensuite, parce que tout repose sur la subjectivité des juges. Alors, chaîne publique, TF1 programme en 1984 une émission devenue culte, hip-hop, juste avant le feuilleton Starsky & Hutch, le dimanche, avec un animateur, noir, Sydney, qui parle de rap et de breakdance au grand public. Le mouvement est lancé et va conquérir progressivement des marques, des théâtres, des collectivités locales, des clubs de danse, des médias. Les inventeurs du breaking sportif ont bien cherché à emprunter à d'autres disciplines, voire à la télé-réalité, par l'aspect spectaculaire des jugements directs. Mais cela n'a pas convaincu. Le couperet de l'avenir du breaking était déjà tombé avant que le premier podium olympique soit dressé, dans la mesure où les organisateurs des Jeux de Los Angeles en 1928 avaient choisi de ne pas inscrire la danse dans leur programme. Pourtant, la discipline est puissante sur le plan culturel, bien plus modeste, certes, sur le plan sportif. À peine 4 000 ou 5 000 licenciés sur 17 millions de licences sportives en France pour 50 000 pratiquants. Côté féminin, c'est la japonaise Ami Iwasa qui a remporté la médaille d'or vendredi 9 août. C'est la première championne olympique de l'histoire à l'issue de 3 rounds gagnés en finale contre la lituanienne Dominika Banevich, alias Big Girl Nika, 17 ans. Derrière elle, la chinoise Liu Qingyi, alias Big Girl 671, complète le podium. Les deux françaises, Sia Dembélé, alias Sissi, et Carlota Dudek, alias Carlota, ont terminé respectivement 7e et 14e, une déception pour les deux jeunes femmes. Intéressons-nous maintenant au skateboard. Quitter la place de la Concorde sans médaille est forcément une déception pour le clan tricolore, quand l'équipe de France compte dans ses rangs un champion du monde. Pour la première olympique du skateboard à Tokyo en 2021, ils étaient 3 finalistes, Vincent Milou, 4e, Aurélien Giraud, 6e et Vincent Matteron, 7e. 0 cet été à la maison, à Paris. Avec 7 qualifiés, la France reste première nation européenne du skateboard en nombre d'athlètes, mais la concurrence internationale a bien de l'avance. Le skateboard se décline en 2 épreuves. Le parc, où les compétitions se déroulent sur un parcours en béton creux, avec plusieurs éléments différents, dont des rampes, des quarter pipes et des bosses. Le street, où les concurrents, les squatters, utilisent l'environnement urbain comme terrain de jeu. L'Australie a remporté les épreuves de parc, tant chez les femmes, Chou, que chez les hommes, avec Palmer. Il y allait de même pour le Japon, mais en street. Le skateboard est né à Venice Beach, sur la côte ouest des États-Unis, quand justement les vagues ne sont pas au rendez-vous. Les surfeurs décident alors de troquer leur maillot de bain pour le bitume et les planches à roulettes. Au début des années 1970, le skateboard commence son ascension. La sécheresse qui a touché la côte ouest des États-Unis a été une des plus violentes en 1970. Et les autorités locales interdisent le remplissage des piscines. Découle alors un terrain de jeu immense pour tous les amateurs de skate. Les piscines vides, aux parois incurvées. À cette époque, le skateboard est un simple jouet fait de roues en alliage argile et fer blanc. Pour que le skate utilise son plein potentiel, il faut attendre l'arrivée de Cadillac Wheels et de ses roues en uréthane, plus résistantes, plus roulantes. Désormais, la rue leur appartient. Le skateboard fait son entrée fracassante dans la culture de la rue et de l'art. Certains pionniers du hip-hop parlent même du skate comme le 6e pilier du hip-hop avec le rap, la danse, le graffiti, le beatbox et les DJs. Et l'arrivée des caméscopes au milieu des années 1980 permet aux marques de skate de faire des vidéos. Ainsi, la culture du skate se propage dans le monde entier.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.